Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nightnartree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Fantômes et légendes du Berry, histoire vraie et récits oubliés de Gabriel Alaour se présente comme un recueil consacré au patrimoine mystérieux du Berry. L'ouvrage réunit des récits situés dans des villages, hameaux, forêts et demeures de cette région du centre de la France, autour d'apparitions, de lieux réputés hantés, de souvenirs transmis localement et de faits troublants conservés par la mémoire collective. Selon la présentation éditoriale disponible. Le livre entend s'appuyer à la fois sur des témoignages et sur des archives anciennes, sans se réduire à une compilation de contes fantastiques inventés. Son objet est donc double, restituer une atmosphère de terre rurale, marquée par les silences, les croyances et les traces du passé, tout en interrogeant la persistance de récits inexpliqués. Des illustrations sombres et évocatrices accompagnent les textes et participent à l'immersion. Faute de description publique détaillée de chaque chapitre, l'analyse doit rester centrée sur les orientations explicitement annoncées enquête locale, mémoire orale, ancrage géographique et imaginaire spectral. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, un Berry concret comme cadre des phénomènes inexpliqués, l'une des caractéristiques les plus nettes de l'ouvrage est son ancrage territorial. Le Berry n'y sert pas simplement de décor interchangeable pour des histoires de fantômes, la présentation du livre insiste sur les villages, les hameaux, les forêts, les caves, les puits et les greniers. Ces espaces ordinaires donnent au récit une échelle locale et domestique. L'étrange ne surgit pas dans un univers imaginaire isolé, mais dans des lieux familiers, souvent ruraux, où l'histoire collective et les habitudes de voisinage rendent les souvenirs plus durables. Cette approche distingue le recueil d'une anthologie générale de surnaturel. Un récit attaché à un site précis peut être lu à la fois comme une histoire d'apparition et comme l'indice d'un rapport particulier à un lieu, une maison abandonnée, un chemin peu fréquenté ou une ancienne dépendance deviennent des supports de mémoire. Le cadre berrichon permet ainsi de relier les émotions de crainte ou de curiosité à la géographie vécue. L'intérêt analytique de ce choix réside dans la matérialité des lieux. Les phénomènes ne sont pas présentés comme de purs concepts, ils sont associés à des seuils, à des recoins et à des bâtiments. Même lorsqu'aucune explication définitive n'est proposée, le lecteur est invité à considérer comment un territoire conserve, transforme et transmet ses récits inquiétants. Deuxièmement, témoignages transmis et archives, une enquête revendiquée plutôt qu'une fiction pure. Le livre est présenté comme un ensemble d'histoires vraies et de récits oubliés, nourris de témoignages, de traditions transmises et d'archives anciennes. Cette formule impose une lecture prudente, elle ne prouve pas, à elle seule, la réalité objective de phénomènes surnaturels. En revanche, elle définit clairement le matériau recherché par l'ouvrage des paroles, des souvenirs et des documents qui attestent de l'existence sociale des récits. La démarche annoncée par l'auteur dans la présentation de la collection repose sur le rapprochement entre mémoire orale et sources écrites, telles que registres, procès-verbaux ou documents locaux. Cette méthode revendiquée a un intérêt précis, elle vise à éviter d'attacher une légende de son contexte, de ses noms de lieux ou de son éventuel arrière-plan historique. Une archive peut confirmer une date, une personne, un drame ou la réputation d'un endroit. Elle ne tranche pas nécessairement l'interprétation paranormale qui s'est développée autour de ces éléments. C'est précisément cette distinction qui donne au livre sa valeur de lecture. Le lecteur peut accueillir le frisson des récits tout en s'interrogeant sur leur mode de transmission et sur ce que les sources permettent réellement d'établir. L'enjeu n'est pas seulement de croire ou de ne pas croire, mais de suivre la manière dont un fait, une rumeur ou une expérience rapportée devient une légende locale durable. Troisièmement, la mémoire orale et les récits oubliés comme patrimoine immatériel berrichon. L'expression « récits oubliés » place la sauvegarde de la mémoire au centre du projet, dans les campagnes comme dans les petites communes. Beaucoup d'histoires circulent longtemps par la parole, elles sont racontées au sein des familles, associées à une maison ou à un lieu dit, puis risquent de disparaître lorsque les témoins vieillissent, que les habitants déménagent ou que les usages locaux se transforment. Le livre se situe dans cette zone fragile entre conservation et effacement. Cette orientation ne doit pas être confondue avec une simple collecte folklorique. Une tradition orale varie selon celui qui la raconte, le moment où elle est répétée et le public auquel elle s'adresse. Les divergences, les silences et les ajouts ne sont pas nécessairement des défauts, ils montrent que la légende demeure vivante. Le recueil semble chercher à fixer des versions de ces histoires, tout en les replaçant dans l'atmosphère et les paysages dont elles proviennent. Le bénéfice intellectuel d'une telle lecture est de mieux comprendre le patrimoine immatériel comme une pratique de transmission, non comme un stock de faits parfaitement stable. Les fantômes, veilleurs ou présences évoqués dans la présentation peuvent alors être lus comme des figures par lesquelles une communauté conserve le souvenir d'événements, de peurs ou de lieux marquants. L'ouvrage valorise ainsi des récits marginaux par rapport à l'histoire institutionnelle sans les soustraire à l'examen critique. Quatrièmement, entre frissons, doutes et contexte historique, une lecture qui ne confond pas preuve et interprétation. Le positionnement du livre repose sur une tension féconde entre l'expérience étrange rapportée et la recherche de contexte vérifiable. Les histoires annoncées comportent des silhouettes, des souffles, des ombres ou des lieux réputés hantés. Elles relèvent donc de l'imaginaire spectral et du récit de mystère. Mais la référence aux témoignages et aux archives invite aussi à distinguer plusieurs niveaux, ce qui a été observé ou raconté, ce qui peut être documenté, et l'interprétation surnaturelle proposée ou conservée par la tradition. Cette distinction est essentielle pour un lecteur attentif. Un document historique peut établir qu'une demeure a connu un événement tragique ou qu'un lieu a porté une réputation particulière. Il ne constitue pas automatiquement une démonstration d'apparition. Inversement, l'absence de preuves matérielles ne supprime pas l'intérêt culturel d'un témoignage, celui-ci renseigne sur les croyances, les émotions et les représentations attachées à un territoire. L'ouvrage paraît ainsi pouvoir être lu sans adhésion préalable au paranormal. Les amateurs de fantastique y trouveront une matière d'ambiance, tandis que les lecteurs plus sceptiques pourront observer comment se fabrique la crédibilité d'un récit local. Cette coexistence du doute et du frisson est plus stimulante qu'une affirmation catégorique. Elle permet de respecter les personnes et les traditions évoquées, tout en conservant une distance critique face aux conclusions extraordinaires. En dernier lieu, l'illustration et la mise en page au service d'une immersion dans le patrimoine nocturne. La présentation éditoriale souligne que chaque histoire est accompagnée d'illustrations sombres et évocatrices, avec une attention particulière portée à la mise en page. Cet aspect visuel est important dans un livre de récits mystérieux, l'image ne se limite pas à décorer le texte. Elle prépare la perception du lieu et intensifie l'atmosphère d'incertitude. Une représentation de pierres, de forêts, d'architecture ancienne ou d'ombre peut prolonger les éléments sensoriels associés aux histoires sans devoir en expliquer le mystère. Le recours à une direction graphique immersive correspond aussi à la nature fragmentaire d'un recueil. Chaque récit doit pouvoir installer rapidement un espace, une tonalité et une attente. Les images et le rythme de page peuvent aider à différencier les épisodes tout en assurant une cohérence d'ensemble, celle d'un Berry secret, rural et chargé de traces. Cette construction rend le livre potentiellement accessible à des lecteurs qui ne recherchent pas un traité savant, mais qui souhaitent entrer progressivement dans une ambiance documentaire et fantastique. Il convient néanmoins de séparer la force esthétique de la valeur probante. Une illustration évocatrice renforce l'expérience de lecture, elle ne valide pas un témoignage. Sa fonction est plutôt de donner une forme sensible à l'imaginaire véhiculé par les récits. Cette articulation entre documentation annoncée et traitement visuel contribue à la singularité éditoriale du volume. En conclusion, Fantômes et légendes du Berry s'adresse d'abord aux lecteurs attirés par les histoires locales de lieux hantés, les traditions rurales et les zones de contact entre histoire régionale et imaginaire surnaturel. Il peut également intéresser les curieux du Berry, les amateurs de patrimoine immatériel et les lecteurs qui souhaitent comprendre comment des témoignages, des souvenirs familiaux et des traces documentaires participe à la survie d'une légende. Le bénéfice principal du livre ne réside pas dans la promesse d'établir scientifiquement l'existence des fantômes, promesse que les informations disponibles ne permettent pas d'attribuer à l'ouvrage. Il tient plutôt à la mise en relation annoncée entre des récits troublants et les lieux réels auxquels ils sont attachés, par rapport à des recueils de peurs plus génériques. Le volume se distingue par son resserrement géographique sur le Berry et par l'importance accordée aux histoires dites vraies, à la mémoire transmise et aux archives. Cette orientation donne aux apparitions et aux mystères une épaisseur territoriale, ils deviennent aussi des récits sur des maisons, des paysages et des communautés. L'accompagnement illustré ajoute une dimension d'immersion qui le place à la croisée du recueil patrimonial et du livre d'ambiance, pour en tirer le meilleur parti. Il est utile de le lire avec une double attention, accepter le pouvoir évocateur des histoires, tout en distinguant soigneusement les faits documentables, les témoignages et leurs interprétations. Cette posture permet d'apprécier le livre comme une exploration du Berry invisible et de ses mémoires persistantes. Si vous souhaitez soutenir Gabriel Alorente, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.